attention, action.
C'est bientôt la 24e édition du Arras Film Festival organisé par l'association Plan Séquence. On vous dévoile quelques temps forts de cet événement en compagnie d'Éric Millot, délégué général de l'association Plan Séquence. Interview réalisée avec la complicité de Bernard pour Radio PFM.
C'est la 24e édition du Arras Film Festival qui se déroulera du 3 au 12 novembre. Pour nous présenter ce festival, j'accueille Éric Millot, délégué général de Plan Séquence. Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Et puis comme chaque année, Boris co-animera cet entretien avec moi.
Salut Éric, salut Bernard.
Alors cette année, plusieurs invités à l'honneur. L'actrice française Dominique Blanc, il y aura aussi une réalisatrice polonaise Agnieszka Hollande, et puis le producteur, scénariste et réalisateur italien Matteo Carone. Alors nous allons commencer par l'actrice Dominique Blanc, qui a commencé sa carrière d'abord par le théâtre, c'était en 1981 avec Patrice Chéreau, et ensuite elle a commencé une carrière cinématographique au milieu des années 80. Avec pas mal de belles rencontres.
Ben, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le symbole du partage entre le cinéma et le théâtre, puisque ben, rien que ses succès, quand on regarde, c'est quelqu'un qui a reçu 4 Césars et 4 Molières. Donc, voilà, on est... Et c'est vrai que ces dernières années, on l'a un peu moins vu, parce qu'elle est entrée à la Comédie Française il y a quelques années, et à partir du moment où elle est rentrée à la Comédie Française, on l'a beaucoup vue sur les planches et beaucoup moins au cinéma. Et elle a fait son grand retour récemment avec L'Origine du Mal, notamment. Et voilà, donc peut-être qu'on va la revoir un petit peu plus maintenant sur les écrans.
Alors Dominique Blanc donnera une leçon de cinéma à l'Université d'Artois, donc ce sera le vendredi 10 novembre à 14h30, 9 rue du Temple à l'Amphithéâtre Churchill, et puis c'est toujours gratuit. Une autre invitée à l'honneur, Agnieszka Hollande, donc, qui est une réalisatrice qui est engagée, qui a fait aussi de belles collaborations, entre autres Krzysztof Kielowski, puis d'autres
André Wajda, surtout, qui est vraiment son mentor. Et elle a notamment écrit le scénario de 5 films de Wajda, dont le plus célèbre qu'on connaît en France, c'est Danton, par exemple.
Et là, elle va venir présenter un film d'actualité qui est sur la crise migratoire, qui s'est déroulée en 2021, entre la frontière polonaise et biélorusse.
Oui, c'est un film assez impressionnant, qui est plutôt un film choral. Et en fait, c'était l'époque, il y a deux, trois ans, là, le gouvernement biélorusse, certainement avec la complicité des Russes, avait tendance à vouloir faire venir des migrants et à les balancer sur la frontière européenne. C'était pour déstabiliser l'Europe et notamment la Pologne. Donc c'était un peu une stratégie. Ce qu'elle pointe du doigt dans le film, c'est que en fait, à la fois d'un côté ceux qui les envoient, c'est-à-dire les Biélorusses, et de l'autre côté le gouvernement polonais, enfin personne de ces gens, ils se retrouvent dans une espèce de no man's land. Et c'est un film qui replace l'humain, qui fait de l'immigrant un humain, et pas du tout, on oublie les enjeux politiques au profit des êtres humains, et c'est ce qui fait sa force.
Donc elle donnera une masterclass, ce sera le mardi 7 novembre, c'est à quel endroit?
C'est au Megarama.
Au Megarama, d'accord.
Oui, dans la grande salle.
Alors le dernier invité à l'honneur de ce festival, c'est un producteur, scénariste et réalisateur italien, Matteo Carone, qui a déjà eu un beau palmarès, puisqu'en 2008 il a obtenu un grand prix du jury du Festival de Cannes avec Gomorra. Et donc il viendra aussi présenter un film.
Oui, c'est ça. Alors c'est pareil, c'est comme pour Agnieszka Hollande, on reprend quelques films un peu marquants de leur carrière, ce qui est le cas aussi pour Matteo Garonne, même si C'est quelqu'un qui a déjà une grande carrière, même quand il fait Gomorra, qui est vraiment un très grand succès. Hein. C'est un succès critique et public très très important. C'est un film choc. Quoi. Et lorsqu'il fait Gomorra, il a déjà une belle carrière. Hein. Et on ne le connaissait pas trop en France, et surtout la critique essentiellement, mais pas le public. Et Gomorra, ça va le placer sur la scène internationale, en fait. Et là, son dernier film, c'est aussi un film qui parle de la crise migratoire, mais alors il s'est complètement de l'autre côté, c'est sud, plein sud, je dirais, par rapport à Agnieszka Holland. Ça s'appelle Mon Capitaine, et c'est l'odyssée de deux jeunes Sénégalais qui ont décidé d'aller en Europe. Et donc, le film va raconter leur parcours. Et on n'est pas du tout dans un film, comment dire, on n'est pas un film documentaire, en fait, on est vraiment dans, et c'est ça la grande force du cinéma de Garonne, c'est qu'on est dans une dimension plus mytho, enfin voilà, on passe dans une autre dimension qui est purement cinématographique, et c'est une véritable odyssée qui va se conclure au moment où ils vont apercevoir la côte européenne, et c'est tout leur parcours, et franchement c'est la grande force du cinéma aussi de Garonne, c'est non seulement de par moments nous faire des échappées poétiques, mais également de traiter finalement leur parcours comme un voyage au pays de la mafia, enfin, un voyage au pays, voilà, et on retrouve là quelque part la force du cinéma, du cinéaste de Gomorra.
Et d'ailleurs c'était pas prévu hein, au départ hein. C'est une bonne surprise puisque ben vous l'avez appris lors de la présentation au public, il venait parce que c'était au départ, il n'était pas présent.
Mais pour faire venir ce genre de réalisateur, de toute façon, effectivement, c'est des longues négociations. En fait, Matteo Garonne, il a obtenu par exemple le prix. Ben, les deux ont obtenu des prix d'ailleurs à Venise, mais c'est des films qu'on a vus avant Venise et dont on a commencé la négociation avant le mois de septembre. Donc c'est par moments très long et il a fallu une négociation très très importante pour faire de sa venue à Arras un vrai événement puisque la rencontre qui suivra la projection du film sera retransmise dans de nombreux cinémas, c'est-à-dire que simultanément en France et en Italie il y aura des projections du film en avant-première, en simultané ou en semi-diffusion, en léger différé, et donc ils vont reprendre la rencontre qui va suivre la projection en direct. Où on les diffère.
Donc il donnera une masterclass le dimanche 12 novembre où il présentera donc comme tu le disais voilà, son casino, nouveau film Moi voilà. Capitaine. Cette année parmi les avant-premières en soirée d'ouverture, Une affaire d'honneur réalisée par Vincent Pérez, alors que je connaissais comme acteur mais moins comme réalisateur.
C'est au quatrième long métrage, hein, c'est quelqu'un qui est déjà et qui s'intéresse beaucoup à l'histoire. Et là, on est dans un film historique, ça se passe à la fin du 19e siècle. C'est lorsque tous ces militaires ne savaient plus quoi faire, bah, ils se battaient en duel pour des questions d'honneur. C'est avant que ça devienne un sport, que ça devienne de l'escrime en fait. Donc là, on était vraiment dans une situation qu'on ne connaît pas trop en fait, parce que c'est l'armée française jusqu'en 1870, c'est la plus grande armée du monde. Il y a énormément de monde, mais une fois qu'elle a été défaite par les Allemands, c'était des gens qui sont devenus désœuvrés et ils sont livrés à des questions d'heure. Donc c'est un film qui nous plonge dans cette période, dans cette histoire, qui montre la naissance aussi du féminisme, parce qu'il y a un personnage qui a existé réellement, hein, qui est joué par Doria Tillier, et qui était une femme qui n'avait pas peur, en fait, qui était prête même à prendre l'épée, à prendre et à se battre avec des hommes. Donc il y a toute cette histoire qui est racontée, et ce qui en fait un film finalement historique, mais aussi très moderne, parce qu'il parle beaucoup de notre société d'aujourd'hui. Et c'est un film qui nous a séduit. En fait, c'est le premier film qu'on a vu en avant-première. Et jusqu'au bout, on s'est dit, on savait pas. Et au final, on l'a gardé pour l'ouverture parce que je trouve que c'est rare qu'on propose un film en costume, un film historique pour l'ouverture. Mmh. Celui-ci étant plutôt pas trop long. Voilà. Donc ça permet de faire une belle ouverture.
Donc ce sera le vendredi 3 novembre à 20h au Casino d'Arras. Vous pourrez voir ce film, Une affaire d'honneur, avec la présence de l'équipe du film.
Qui dit film d'ouverture dit aussi film de clôture. Et cette fois-ci, ce sera Iris et les hommes de Caroline Vignal qui a choisi de nouveau l'actrice Laure Calamy qui avait joué dans son précédent film Antoinette dans les Cévennes.
Oui, c'est à nouveau une comédie. Je dirais que c'est un peu différent dans le sens où c'est une comédie qui nous parle. On va moins prendre l'air, mais on va être plus en milieu urbain. Et c'est l'histoire d'une... Une dentiste qui est bien mariée et tout, puis d'un seul coup elle découvre le mieux les sites pour rencontres, et donc ça devient un enfer avec ça en fait.
Donc film diffusé donc le dimanche 12 novembre à 19h30 au Casino d'Arras.
Alors dans les avant-premières, moi j'ai noté deux films qui me paraissent un petit peu atypiques, notamment le premier, c'est Gueule Noire de Mathieu Thury, hein, qui revient sur l'année 1956 hein, dans le nord de la France où des mineurs finalement découvre quelque chose dans les mines, et c'est un film de science-fiction presque. Alors
Moi, je dirais d'épouvante, voire d'horreur.
Ah, bah alors, tu peux peut-être nous en dire un ou deux mots.
Oui, bah, je vais dire, ça commence comme Germinal, voilà, et ça se termine, je dirais, ça commence comme Germinal, ça passe par Les Aventuriers d'Arche Perdue, ça se termine comme Alien, quoi.
Et donc, bah, c'est des films qui sont soutenus hein, par Pictanovo, notamment, avec l'aide de la région Hauts-de-France. Et puis, il y en a un autre également qui m'interpelle, c'est le film d'animation Mars Express de Jérémy Pénin, qui raconte l'histoire d'une détective et, puis, et son collègue qui traque des hackers donc, qui résistent à la robotisation du monde.
C'est ça. Déjà, c'est un très beau film de science-fiction, c'est un beau film d'animation, ça a été produit et réalisé en grande partie dans notre région. Et c'est un film qui à la fois évoque des films effectivement de à la fois qui mélange le polar à la Blade Runner quoi. Enfin voilà, qui mélange à la fois le polar et puis la science-fiction. Et je trouve que le film prend toute sa dimension sur le final. C'est-à-dire d'un seul coup, on se rend compte qu'il nous parle aussi de notre monde d'aujourd'hui. Il nous parle effectivement de la robotisation, de la question de la vaccination. Enfin des choses qu'on impose en masse aux gens. Et que tout ça, c'est un regard qui porte à travers un film, finalement, un film de genre et un film d'action.
Tous les ans, le festival organise une compétition européenne avec 9 longs métrages à découvrir.
Il y a notamment, moi j'avais noté Without Air, qui est d'actualité également, hein, puisque ben, c'est un film hongrois. Je vais essayer de prononcer le nom. Katalin Moldovaï. Bon, ça va, c'est pas
compliqué.
C'est
bien, bravo. Ouais.
Qui raconte ben, l'histoire d'une enseignante ostracisée après avoir suggéré à des élèves un film dont le contenu m'a déplu à l'un des parents.
Oui, alors le film en question, qui n'est pas dit dans le pitch, c'est rigolo parce que ça fait un lien avec une de nos invités d'honneur, c'est le Rimbaud Verlaine de Agnieszka Holland. Qui d'ailleurs était un des premiers rôles de Leonardo DiCaprio. Et vous connaissez, enfin, le problème, c'est que ça raconte Verlaine étant homosexuel, c'est cet aspect-là qui déplaît complètement à l'un des parents d'élèves, qui est plutôt, j'irais, de tendance politique très, 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 très à droite. On a une prof qui était exemplaire, qui aime ses élèves, qui les ouvre, et d'un seul coup, elle se trouve confrontée à un mur, c'est-à-dire qu'elle va devenir une espèce de bête noire, et elle va être prise en grippe par l'institution, et c'est tout son parcours, et c'est un beau parcours de femme, et c'est un film qui nous a beaucoup touchés. Et effectivement, s'il y a un film dans le festival qui fait un lien avec l'actualité, même si là, on ne parle pas de meurtre, hein, on n'est pas du tout dans cette dimension-là, on est vraiment là dans ce qu'est le métier d'enseignant, jusqu'où les parents aussi peuvent avoir le contrôle, ou la famille peut avoir un contrôle sur ce que l'enseignant diffuse, en fait.
Alors moi, j'ai repéré un film norvégien qui parle cette fois-ci du peuple autochtone du Grand Nord. C'est les Samis qui ont rencontré, comme pas mal de peuple autochtone, une persécution.
Oui, parce qu'on connaît pas trop ces histoires. C'est-à-dire, les Européens, on est toujours rigolo parce qu'on monte les Américains du doigt. Puis vous avez vu ce qu'ils ont fait aux Indiens. Mais en réalité, les Européens, ils ont fait aussi plein de choses de ce genre. Et on avait montré il y a quelques années, c'est pas très longtemps, enfin, on avait montré un film qui montrait cette problématique, mais du côté suédois. Là, on est chez les voisins, on est en Norvège et on s'aperçoit que le peuple sami, finalement, il a subi les mêmes restrictions, que ça soit du côté suédois, du côté norvégien. Et donc, on est avec une jeune enseignante, toute jeune, elle démarre dans le métier. Là aussi, c'est une enseignante d'ailleurs. Elle a tendance à gommer sa personnalité, c'est-à-dire son origine. Elle cache qu'elle est Sami en fait. Et petit à petit, elle va découvrir ce que subit son peuple, ce qu'a subi déjà son peuple, ce qu'il est en train de subir. Et en plus, on est dans les années 80, un moment où le gouvernement en fait norvégien décide de construire un barrage sur la rivière qui est la source de vie. En fait, de ce peuple, c'est vraiment leur source de vie, de nourriture, de voilà. Et elle va rejoindre un certain nombre de jeunes aussi qui combattent pour essayer d'empêcher la construction de ce barrage.
On passe maintenant aux découvertes européennes, hein, qui, je le rappelle, est une sélection de longs métrages inédits ou en avant-première, hein, pour mettre en valeur les talents de cinéma européens. Et notamment, il y a une rubrique Perspective du cinéma français. Et j'ai noté Vincent doit mourir de Stéphane Castan. Une histoire aussi un petit peu spéciale.
Oui, après, ça démarre un peu comme un film kafkaïen, c'est-à-dire il y a un personnage qui se demande ce qui lui arrive, il est soudain agressé par un stagiaire, à son travail, il y a des gens comme ça qui l'agressent, et il se dit, j'ai un problème et tout, il comprend pas. Et en fait, il se rend compte que la société est en train de changer et que finalement, plein d'autres personnes sont victimes des mêmes effets. Et on bascule dans une espèce de film un peu, si vous aimez les films de John Carpenter ou de George Romero, on est complètement dans cette dimension-là. C'est-à-dire, on sent vraiment l'inspiration avec, comme chez Romero, une dose d'humour. C'est-à-dire que par moment, on est dans la limite du film fantastique et voilà, de ce type de film, mais il y a toujours un petit recul. Et puis après, c'est une belle histoire d'amour aussi. C'est un film qui est très fort par rapport à ça. Et si vous aimez Karim Leclou, qui est vraiment un acteur très incarné, qui aime ses personnages, il s'est très investi dans ce rôle. Et voilà, c'est un film un peu flippant par moment, mais en tout cas, qui nous dit aussi beaucoup de choses sur notre société actuelle. C'est-à-dire que la violence qui envahit aussi notre monde.
Et puis on peut dire aussi qu'il y aura la présence de Vimala Ponce dans ce film.
Oui, qui a un très beau rôle. En fait,
qui a déjà joué, si je me souviens bien, un film un peu fantastique aussi avec un super-héros.
Oui, j'ai oublié le titre. C'est Vincent...
N'a pas d'écailles.
N'a pas d'écailles, oui.
Voilà.
Il était deux fois déjà à Arras, d'ailleurs.
Dans la sélection Vision de l'Est, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un focus sur les nouveaux films croates ?
Depuis 2 ans, alors on a un rendez-vous qui est une plateforme de coproduction qui s'appelle les Arras Days. Les Arras Days, c'est un endroit où les réalisateurs, les producteurs viennent proposer à un jury et à un parterre de producteurs et de programmateurs, de vendeurs, voilà, ils viennent proposer leur projet de film en fait. Et ils peuvent obtenir des bourses pour les aider. Et par exemple, cette année, dans notre compétition, pour être concret, on a 2 films qui ont eu des bourses à Arras Days. On a le film bulgare qui s'appelle Blazgas Lesson. Donc, c'est un film qui a été réalisé avec l'aide au démarrage d'Arras. Et le film turc Hesitation Wood, qui est également un film qui a été soutenu par ces Arras Days. Depuis l'an dernier, on a étoffé ce rendez-vous professionnel pour attirer un peu plus de professionnels un peu partout en Europe. Et ils viennent de partout. Il y a souvent des participants d'une 20aine de pays européens. On a choisi un pays invité. L'an dernier, c'était la Slovénie. Cette année, c'est la Croatie. Donc, c'est des réalisateurs et des producteurs qui viennent proposer des projets qui sont plus avancés que ceux qu'on soutient dans le cadre des Arras Days. On appelle ça des work in progress. Parfois, ils sont déjà en partie tournés ou ils sont sur le point d'être tournés. Et ils ont juste besoin d'un peu d'aide pour finaliser leur projet. Et du coup, on s'est dit, il faut aussi faire un lien peut-être avec ce pays invité. Et c'est pour ça qu'on a choisi la Croatie. Pour tout vous dire, là, on a vu des films qui semblaient intéressants. Alors que l'an dernier, sur la Slovénie, on a eu beaucoup de mal. On en avait trouvé qu'un, en fait, qui nous semblait intéressant. Là, on en a trouvé 3 pour faire un petit programme.
Alors, dans la sélection Vision de l'Est, moi, j'ai noté 2 films aussi, dont Photophobia, hein, film de Ivan Utrushovski et Pavel Pekalchik, si je les prononce bien. Un film slovaque, ukraino-slovaque, on va dire, qui revient évidemment sur... la première période de la guerre en Ukraine où les gens vivaient dans le métro et vu par 2 enfants.
Oui. On propose peu de documentaires au festival. C'est pas notre créneau, c'est pas notre ADN, mais celui-ci nous a beaucoup touché parce que à la fois c'est un documentaire, c'est-à-dire qu'on est plongé effectivement avec ces 2 enfants dans le métro de
Kharkiv.
De Kharkiv, ouais. En même temps, c'est un film qui a une vraie dimension artistique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le reportage du tout. On sent la patte de réalisateur et on sent un vrai projet cinématographique derrière ce film. Et c'est ça qui nous a... Voilà, c'est un moyen de parler du monde à travers une œuvre. Et je trouve que c'est un des plus beaux films. J'en ai vu plusieurs sur l'Ukraine. Il y en a d'ailleurs un qui va sortir juste avant, qui se passe dans une voiture. Et on n'a pas pu le présenter au festival parce qu'il sort sur les écrans français. Mais celui-ci, il nous a semblé vraiment intéressant pour parler de la situation en Ukraine aujourd'hui.
Et puis Restore Point également, de Robert Holz, un film tchèque, où là... c'est une histoire de policière qui s'intéresse à des détenus avec une technologie un peu bizarre.
Non, c'est pas des détenus. C'est une époque où on est dans la science-fiction. Donc, on est un peu aussi là dans un film, comme je disais tout à l'heure, un peu entre Blade Runner et Minority Report. C'est un film avec de très gros moyens. On est dans une super production. C'est un film tout public. Et effectivement, c'est une époque où si on peut faire des restaurations, lorsque vous avez une mort violente, je sais pas, un accident de voiture par exemple, si vous avez une sauvegarde, on peut vous la réinjecter et donc vous pouvez revivre. Voilà. Il ne faut pas une mort de maladie, mais je parle d'une mort violente. Et là, on est dans une enquête policière, donc il y a des morts violentes, en fait, il y a des meurtres qui sont commis. Et c'est la jeune détective, elle cherche à savoir, et voilà, c'est ça le restore point.
Ouais, ce n'est pas les détenus, hein, c'est les détenteurs du technologie. Je l'ai un peu mal lu.
Dans la sélection Cinéma du Monde, j'aimerais regarder ce film à l'occasion de ce festival. C'est Goodbye Julia, qui est un film qui a été sélectionné. Un certain regard à Cannes, vous l'avez découvert dans ce contexte-là ?
Oui, tout à fait. Ouais. Mais je l'ai vu. Moi, je l'ai vu dans un autre festival, mais il était à Cannes. Je l'ai pas vu à Cannes. D'accord. En fait, j'ai vu dans un autre festival à l'étranger. Mais oui, c'est. Moi, j'aime beaucoup on aime beaucoup le film parce que ça raconte, en fait, ça nous permet de comprendre. Alors, c'est une vraie histoire, c'est vraiment une histoire entre deux femmes. Enfin, il y a vraiment un récit, le film est très bien filmé. C'est rare de voir un film soudanais. Et surtout, il nous éclaire complètement sur la situation du Soudan actuel et surtout de ces dernières années où on n'a rien compris à cette guerre civile, qui est une vraie guerre de sécession, mais qui est en même temps une guerre de religion, une guerre sociale. Enfin, il y a toute cette dimension. Et le film, sous un aspect très romanesque, je dirais, nous fait comprendre. Absolument comprendre ce qu'est la situation au Soudan. C'est-à-dire, on en apprend plus que dans n'importe quel reportage qu'on peut voir à la télévision.
Et puis le film mongol également. Je ne sais pas si c'est la première fois d'ailleurs qu'il y a un film mongol qui est présenté.
Je ne crois pas. Non. Ah. Si, oui. Si. En réalité, si, parce qu'il y en avait un, mais il était. Ouais. C'est l'année où le festival a été annulé à cause du Covid.
Voilà. Si seulement je pouvais hiberner. Donc, alors là, je vais essayer de le prononcer. De Zogyargal. Pliurf Dash.
T'es courageux. C'est une réalisatrice.
Ah, en plus. Ouais, donc, ça se passe à Oulan-Bator.
C'est un beau film, tout public, qui raconte l'histoire d'un jeune qui veut s'en sortir. Enfin, c'est tout le problème des Mongols qui. Les nomades qui doivent quitter leur vie traditionnelle pour aller enfler les bidonvilles d'Oulan-Bator parce que leur territoire, on le détruit en fait avec les mines, avec la Mongolie, c'est terrible ce qui se passe actuellement. Et donc lui, il a plus de père, il a sa mère et sa mère, elle rêve de retourner au pays. Et il doit s'occuper à la fois de ses frères et sœurs, il doit s'occuper de sa mère et puis on détecte qu'il est excellent à l'école, donc il veut passer aussi un concours. Et c'est toute cette histoire que ça raconte et c'est vraiment une plongée dans la Mongolie d'aujourd'hui et c'est très prenant avec des beaux personnages.
Alors donc évidemment en rétrospective, sale bête, là ça va faire plaisir à pas mal de gens parce qu'on va retrouver des classiques quand même avec Les Oiseaux d'Hitchcock, Les Dents de la Mer de Spielberg, Cujo tiré de la nouvelle de Stephen King qui est filmé par Lewis Teague, puis aussi L'Horrible Invasion aussi que j'irai voir parce que je suis arachnophobe et peut-être que ça va finir par passer.
Alors moi aussi, hein. Moi aussi, et depuis que j'ai découvert le film j'adore, en plus c'est un film qui est fait avec des vraies araignées.
Ouais,
pas de numérique.
Justement.
Et elles sont nombreuses, je peux vous le dire.
Ouais, ok.
Aussi nombreuses que les oiseaux d'Hitchcock, en fait.
Donc, il y a plein de choses à découvrir hein, pour Piranhas, un des classiques. Hein, Willard, Phase 4 également, Soudain les monstres.
Je crois qu'on peut. Alors, pour des raisons techniques, on était obligé de resserrer la rétrospective qui devait être un peu plus ample au départ. On a été obligé de la resserrer. Et je crois qu'il y a vraiment 8 grands films, en fait. Chefs-d'œuvre, de façon très diverse en plus, parce qu'on passe de des oiseaux qui est vraiment l'hyper classique. Que peu de monde a vu en salle finalement, qu'on connaît surtout la télévision, à des films vraiment de série B là, comme on a parlé de L'Horrible Invasion ou comme Soudain les monstres, qui sont des films inventifs, bricolés, avec des vrais spécialistes du genre. C'est des gens qui ont fait plein de films sur les bêtes en fait.
Et Piranhas, c'est l'un des premiers films de Joe Dante, si je me souviens.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est l'anti Dents de la Mer en fait. Moi, j'adore Les Dents de la Mer, hein, mais c'est la version sale en fait des Dents de la Mer.
Puis il y a aussi c'est nouveau aussi, rétrospective Drôle de Tchèque. Alors ça se passe plutôt pendant le printemps de Prague. Hein. C'est des films qui sont un petit peu. Enfin là, j'ai vu les pitchs, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ces machins-là ?
Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ces machins-là ? Ouais, c'est la mode. On avait envie de prendre un contre-pied aux sales bêtes. Donc il y a plein de beaux films. Le cinéma tchèque des années 60 était vraiment extraordinaire, vraiment. Moi, j'ai vu plein de chefs-d'œuvre. Puis à un moment, on a dit, on va resserrer sur des films plutôt inventifs et drôles. Un peu, voilà. Et c'est vrai qu'on a découvert des vraies pépites. Alors, certains qui ont été réalisés juste au moment du printemps de Prague, juste avant ou pendant. Et puis, il y en a deux, parce qu'il y a des gens qui ont continué à travailler, il y en a deux qui ont été tournés un petit peu après, mais qui sont aussi très inventifs et très drôles. Et là, on découvre des gens qui osent des choses. Enfin, si vous aimez la BD, qui veut tuer Jessie, c'est incroyable. C'est des personnages de BD qui sortent, qui prennent vie, ils parlent avec des bulles. Enfin, voilà, c'est plein d'inventions. Happy End, lui, c'est bien avant Memento de Nolan, de Christopher Nolan, mais c'est un film complètement fait à l'envers, mais alors jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous avez les réponses avant les questions. Ah donc, ouais, ça demande un exercice qui est hyper intéressant, en fait.
Ça va être intéressant, voilà. Ouais, carrément.
Et puis, vous avez Les Petites Marguerites, qui est un film hyper contestataire. Si vous connaissez R de Miloš Forman, il lui rend un grand hommage quand il y a la scène de la table où le héros du film danse sur la table des bourgeois. Enfin, c'est un hommage direct aux Petites Marguerites. Et puis, il y a le chef-d'œuvre qui s'appelle Train étroitement surveillé. Voilà. Ils sont tous incroyables, ces films.
Et puis, séance spéciale également, avec pas mal de films, mais notamment, évidemment, la sortie qui est annoncée, je pense que c'est pour le 1er novembre, Le Garçon et le Héron, le dernier film de Miyazaki, qui a 82 ans, qui avait annoncé sa retraite il y a 12 ans. Et là, il revient avec son dernier film.
Ouais, c'est le seul qui ne sera pas présenté en avant-première, parce qu'il sera sorti 2 jours avant ou 3 jours, mais on avait envie de faire ce cadeau aux spectateurs du festival, parce que pendant le festival, les salles d'Arras ne tournent pas, donc on ne pourra pas le voir, en fait. Donc, on a eu envie de faire un cadeau, d'offrir au contraire la grande salle du casino, sur le grand écran, ce film. À la fois, on va faire 2 séances, d'ailleurs, on a choisi de le présenter en version française l'après-midi, et le soir, à 19h, ce sera le premier dimanche, en fait, le 5, et on présentera en version originale. Comme ça, chacun pourra aller où ses affinités le poussent. Et voilà, c'est le cadeau qu'on a envie de faire, parce que je pense que c'est pas sûr qu'on ait encore un Miyazaki. Enfin, vu l'âge du monsieur et vu le temps qu'il met pour faire des films, on ne sait pas. Et celui-là est tellement beau et c'est vraiment.
Son fils prend la relève, mais on attend de voir. Voilà.
Oui, c'est bien, mais il a encore du chemin à faire.
Ouais, je sais. Ouais.
Et pour terminer la présentation du festival, vous retrouverez aussi le festival des enfants, des ciné-concerts, des afters musicaux au village du festival qui se trouve toujours sur la Grand Place d'Arras.
D'ailleurs, pour le festival des enfants, moi j'ai noté le royaume de Kensuke également, de Neil Boyle. Et Kirk Andy, alors c'est Royaume-Uni, Luxembourg, France, hein. Donc je pensais que c'était plutôt un film un peu japonisant, et en fait non,
ça se passe dans les îles quand même, il y a un héros qui est un japonais, oui, effectivement, mais non, c'est un film fait par des anglais, en fait.
Ok.
Oui, c'est un film très beau, et en fait ce genre de cinéma qui s'adresse pas qu'aux enfants, en fait, je pense qu'on peut y aller, parce que les enfants l'étudient à l'école, enfin c'est un film c'est une histoire que le roman est très connu et très, très étudié, mais c'est un film qui est vraiment à la portée de tout le monde, et où même les adultes peuvent y prendre beaucoup de plaisir. Moi, je dis toujours, un bon film, c'est comme les Miyazaki, quoi. C'est pour tous les niveaux de lecture, en fait.
Alors, si on souhaite avoir tous les détails du festival, on peut retrouver le programme sur Internet.
Oui, sur le site arrasfilmfestival.com, c'est facile.
Et il y aura quelques programmes aussi en papier qui traîneront.
Là, pour l'instant, il y a le programme papier qui vient de sortir, le pré-programme. Vous pouvez vous procurer pour 5 euros le programme complet qui vous dit où est-ce qu'il y a des invités. Voilà. Et si vous prenez un abonnement ou un pass, il vous est offert avec l'abonnement et le pass.
Éric Mio, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Rendez-vous donc au 3 jusqu'au 12 novembre pour cette 24e édition du Arras Film Festival.
À très bientôt dans les salles, alors.